RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi le commentaire et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter la rubrique Mon Indonésie. La rubrique suivante est le magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous présenterons des musiques indonésiennes. Les auditeurs, voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et le commentaire.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de quatre coins du monde. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. L'Israël veut ouvrir des relations diplomatiques avec l'Indonésie. Selon Yusuf Kala, l'Israël doit d'abord faire la paix avec la Palestine. L'Indonésie a fourni les bourses aux étudiants palestiniens. La guerre commerciale est en élan pour que l'Indonésie élargisse ses exportations. Le ministère indonésien du tourisme et l'ambassade d'Indonésie à Pékin organisent une réunion d'affaires de la merveilleuse d'Indonésie. Et enfin, Sleman, l'hôte de l'IWCF 2018. Voici le journal complet. La déclaration du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à propos du désir d'Israël d'établir des relations diplomatiques avec l'Indonésie est devenue une discussion publique à l'intérieur. Yusuf Kala, le vice-président indonésien, a déclaré à Jakarta que l'Israël avait la possibilité de commencer les relations diplomatiques avec l'Indonésie, mais avec les exigences principales, à savoir la réalisation de la paix avec la Palestine. Cela a été dit par Yusuf Kala à Jakarta mardi. Yusuf Kala a souligné qu'à l'heure actuelle, le moment n'était pas venu pour l'Indonésie de s'ouvrir pour donner l'occasion de nouer des relations diplomatiques avec l'Israël. Le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, Harun Atanasir, a déclaré que jusqu'à présent, aucune situation qui oblige l'Indonésie n'avait des relations diplomatiques avec l'Israël. La position de l'Indonésie n'a pas changé liée aux relations diplomatiques avec l'Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a dit dimanche, lors de la conférence internationale des journalistes chrétiens à Jérusalem, qu'il a l'intention de commencer des relations diplomatiques avec l'Indonésie. Le gouvernement indonésien a accordé de fournir une assistance sous forme de bourse aux étudiants palestiniens. Cet accord a été atteint lors de la réunion de la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, avec le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Al-Maliki, dans le bâtiment Pancasila, au bureau du ministère des Affaires étrangères à Jakarta récemment. La ministre Retno a déclaré que le forum des recteurs d'Indonésie et l'université Pajajaran avait accepté de donner la bourse. Outre le collège, le gouvernement indonésien offre également une bourse d'études sur l'aviation aux étudiants palestiniens.
Masih terkait dengan capacity building, forum rektor.
En ce qui concerne le renforcement des capacités, le forum des recteurs indonésiens et l'université de Pajajaran accorde des bourses aux étudiants palestiniens. C'est l'un des efforts de l'Indonésie pour préparer la jeune génération palestinienne. La bourse sur l'éducation aéronautique pour les étudiants palestiniens dans les écoles d'aviation indonésienne est actuellement en cours de réalisation. de sorte qu'elles puissent être mises en œuvre rapidement. Retno espère que le programme de bourse d'études faisant partie d'un effort visant à renforcer les capacités afin d'avoir un impact positif sur le bien-être palestinien, en particulier pour les jeunes générations ayant accès à l'éducation. En 2019, l'Indonésie a le projet de fournir des bourses d'études aux 90 appareils et peuples palestiniens. Les programmes proposés varieront à partir de l'autonomisation des femmes, la bonne gouvernance, l'agriculture de fruits tropicaux, les observateurs des aliments et des médicaments et la formation à l'aviation. Selon Mme Retno, jusqu'à présent, 2000 Palestiniens ont bénéficié du renforcement des capacités dans 17 programmes faits par le gouvernement indonésien. Le responsable de l'Institut d'observation économique pour le développement économique et financier, ou INDEF, Bima Yudhistira Adinegara, a déclaré mardi à Jakarta que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine constituait un élan pour élargir le marché indonésien aux pays très puissants. Bima a déclaré au service mondial de RRI, la Voix d'Indonésie, que l'Afrique et la Russie étaient deux marchés potentiels. Il a également déclaré que pour étendre le marché indonésien à de nouveaux pays, outre les États-Unis et la Chine, l'Indonésie devait prendre des mesures stratégiques pour que les activités d'exportation dans le pays puissent satisfaire aux normes requises par les nouveaux pays. En outre, l'Indonésie doit augmenter les investissements dans le développement des ressources humaines pour répondre aux besoins des travailleurs de l'industrie.
This is how we change from the domestic oriented to the.
C'est une opportunité pour changer l'orientation domestique à l'orientation d'exportation en cherchant un nouveau marché. Bien entendu, si le marché est en croissance comme l'Afrique et la Russie, par exemple, nous avons besoin de beaucoup d'investissements. Nous avons besoin de nombreux programmes tels que des incitations fiscales pour éliminer les choses qui limitent les investissements. Le troisième est d'augmenter notre capital humain. Parce que si nous voulons faire face à la condition globale liée à la guerre commerciale, le développement des ressources humaines doit répondre aux besoins de l'industrie. En outre, Bima Yudhistira a déclaré que le gouvernement indonésien devait maximiser le potentiel d'investissement dans le pays. Selon lui, les investissements étrangers dans le pays, ou FDI en Indonésie, ne représentent que 5,7% des investissements totaux dans le pays. Pendant ce temps, les régions de l'Asie atteignent un niveau d'investissement de 17%. Le nombre est inférieur au Vietnam et représente 20% des investissements étrangers totaux dans le pays. Le ministère indonésien du tourisme collabore avec le Royal Sino-Energy de Pékin et soutenu pleinement par l'ambassade d'Indonésie à Pékin, en Chine, organise une réunion d'affaires de la merveilleuse d'Indonésie à Zhengzhou, dans la province de Henan. Dans son discours, le ministre indonésien du tourisme, Arif Yahya, a déclaré que le président indonésien avait fait du tourisme comme premier secteur en Indonésie. Selon lui, cela montrait que le gouvernement indonésien accorde une grande attention au maintien de la stabilité du secteur du tourisme indonésien. En outre, le ministre du tourisme a souligné que Bali et d'autres destinations touristiques en Indonésie étaient très sûres d'être visitées par les touristes. Cela est prouvé par le succès de l'événement du Fonds monétaire international, ou le FMI, qui s'est tenu récemment à Bali, qui a attiré plus de 35 000 participants de 189 pays. Cette réunion d'affaires est également un moyen de mettre en valeur la diversité des arts culturels indonésiens. Cette activité a été assistée par 300 invités se composant de voyagistes, d'agents de voyage et de représentants des médias de la province du Henan. Le gouvernement de la résidence de Sleman à Yogyakarta est l'hôte du Festival des villes créatives d'Indonésie, IWCF 2018, qui s'est tenu pendant 6 jours du 15 au 20 octobre. A été ouvert mercredi. Sri Muslimatun, la résidente adjointe de Sleman, souhaite que ce festival puisse améliorer les activités économiques créatives à Sleman. M. Arif Buriman, le secrétaire général du réseau des villes créatives indonésiennes, IWCN, a déclaré que 170 districts ou villes d'Indonésie avaient participé à IWCF de cette année. Il espère également que les participants de l'IWCF pourront collaborer et unir leurs énergies pour rendre l'Indonésie meilleure à l'avenir. L'activité a été initiée par l'IWCN qui a été créée en 2015 par l'Agence pour l'économie créative à Jakarta. L'IWCN est un réseau de résidences ou de villes qui travaillent en synergie pour développer des villes créatives en Indonésie. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Serviteurs, voici donc le commentaire ayant pour le titre « La conférence de notre océan ». L'Indonésie sera l'hôte de la 5e conférence de notre océan. La conférence marine qui se tiendra à Bali les 29 et 30 octobre 2018 réunira des délégués de 160 pays. Selon la ministre indonésienne des Affaires maritimes et de la pêche, Susi Pujastuti, le 16 octobre 2018, il y avait déjà 1696 délégués inscrits. Certains d'entre eux ont des chefs d'État et des ministres des pays de la délégation. Lors de la conférence, il y avait 6 sujets de discussion, à savoir les pêches de capture durable, le changement climatique, la sécurité maritime, la durabilité économique marine, la pollution maritime et les zones marines protégées. La pêche illicite non déclarée et non réglementée est la seule chose qui puisse être axée. La 5e conférence de Bali ne devrait pas seulement cesser de susciter un engagement, mais ce qui est important est de réaliser les engagements pris. Sur environ 4 fois de la mise en œuvre de cette conférence, 663 engagements ont été identifiés. Les nombreux engagements en faveur de la sauvegarde de la mer sont une bonne chose car, au moins, cela peut être perçu comme une forme de l'augmentation de prise de conscience du pays sur l'importance de maintenir et de prendre soin de la mer et de développer le potentiel de la mer de manière durable. Cependant, il y a l'inquiétude que les engagements souscrits ne reposent pas sur un consensus comment pour répondre aux principaux problèmes rencontrés. L'absence de consensus dans les 4 conférences auparavant a permis l'existence de l'estimation que la conférence à Bali subira la même sort, c'est-à-dire d'arrêter sur ses engagements. L'engagement sans consensus n'est que sur le papier sans action. L'Indonésie ne veut pas que la 5e conférence de notre océan crée seulement un nouvel engagement. Lors d'une récente réunion bilatérale, la ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Susi Pujastuti, et le commissaire européen chargé de l'environnement, de la maritime et de la pêche, Carmenu Veladari, ont convenu que le forum DWOC à Bali ne deviendrait pas un forum qui se contenterait de parler d'un engagement mis en œuvre dans le sauvegarde des océans du monde. Par conséquent, l'Indonésie peut encourager cette conférence à établir l'un des consensus communs pour éliminer la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir tout le monde. Voici le programme de l'histoire d'aujourd'hui, le 18 octobre. On commence par le 18 octobre 1931, la mort de Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison était connu comme le plus grand inventeur de tous les temps. L'homme de génie était titulaire de 1093 brevets en son nom et de brevets dans d'autres pays. Les découvertes d'Edison comprennent des centrales électriques, des communications de masse, des enregistrements sonores et des films. Edison a répertorié ses noms dans environ 425 brevets dans le domaine de l'éclairage et de l'électricité, la plupart des autres domaines. Ces résultats comprennent des phonographes, des appareils photo algentiques et des ampoules électriques pratiques, durables et qui ont un impact considérable sur le monde industriel moderne. Il a été l'un des premiers inventeurs à appliquer les principes de la production de masse et du travail en équipe au processus de découverte en travaillant avec de nombreux chercheurs et employés. Il a fondé le premier laboratoire de recherche industrielle. En 1890, Alva Edison a fondé la société d'électronique General Electric qui a survécu à ce jour. Thomas Alva Edison est décédé le 18 octobre 1931 à l'âge de 84 ans. La suite, le 18 octobre 1967, Venera 4 a atterri sur Vénus. Venera 4 est un avion du programme Venera de l'Union soviétique destiné à l'exploration de la planète Vénus. Venera 4 a été le premier avion à réussir à effectuer une analyse environnementale sur le sol d'autres planètes. Cet avion est également le premier avion à atterrir sur une autre planète. Deux avions identiques Venera 4 ont été lancés en juin 1967. Le premier avion Venera 4 a été lancé le 12 juin par un Tiazeli Sputnik. Le deuxième avion lancé le 17 juin, mais il a échoué à l'un des étages de la fusée et n'a pas pu atteindre l'orbite terrestre, est entré dans l'atmosphère de la Terre 8 jours plus tard. Le 18 octobre 1967, le premier avion Venera 4 a été lancé dans l'atmosphère de Vénus et Venera 4 fournit une analyse chimique de l'atmosphère de Vénus indiquant que son contenu principal est du dioxyde de carbone avec un pourcentage d'azote et d'oxygène et de vapeur d'eau inférieure à 1%. La station détecte un champ magnétique faible et il n'y a pas de champ de rayonnement. La partie extérieure de l'atmosphère contient très peu d'hydrogène et ne contient pas d'oxygène. L'avion a envoyé les premières mesures qui prouvaient que Vénus était très chaud, que son atmosphère était plus dense que prévu et que Vénus avait perdu la majeure partie de l'eau dans le passé. La dernière, le 18 octobre 1989, le dirigeant est-allemand Erich Honecker a démissionné. Erich Honecker était un homme politique communiste allemand qui dirigeait l'Allemagne de l'Est de 1971 au 18 octobre 1989. Après l'unification de l'Allemagne, il a cherché l'asile à l'ambassade du Chili à Moscou en 1991, mais il est extradé en Allemagne un an plus tard, à juger pour son rôle sur les violations des droits de l'homme commis par le gouvernement allemand. Mais le procès judiciaire a pris fin parce qu'il était malade et il a été libéré de prison en 1993 pour rejoindre sa famille en exil au Chili. Il y est décédé en mai 1994. Les auditeurs, voici l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique « Modernisie » intitulée « La foresterie sociale est réalisée 2,1 million hectares ».
Le forêt social est un programme gouvernemental dont l'existence peut être gérée par la communauté pour devenir une terre productive afin d'offrir des avantages directs à la communauté autour de la forêt. C'est ce qu'a déclaré la ministre de l'Environnement et des Forêts, Mme Siti Nurbaya, après avoir participé au dialogue national Indonésie avancée dans l'aire de repos Uruk, ville Tasikmalaya, Java West, samedi 13 octobre. Le dialogue a pour thème améliorer la gestion communautaire des zones forestières par le projet de foresterie sociale. 2500 participants étaient le groupe d'agriculteurs forestiers de Tasikmalaya et ses environs, des agents d'extension forestière, des étudiants, des éclaireurs et des élèves. Madame Siti Nurbaya a déclaré que le gouvernement central a lancé un programme de foresterie sociale légalisant la communauté pour gérer des forêts. Actuellement, 2,1 million hectares ont été réalisés par rapport à l'objectif de 2019 de 4,3 million hectares. Madame Siti Nurbaya a ajouté le programme de gouvernement du président Joko Widodo a été mis en œuvre à l'échelle nationale y compris à Java, notamment à Java Est, Java Central et Java Ouest. Le programme de gestion des terres forestières de la communauté a duré 70 ans et son utilisation sera surveillée pendant cette période par le gouvernement. La ministre Siti Nurbaya a déclaré que les forêts sociales ne parlaient pas seulement de l'accès de la communauté aux forêts. La forêt sociale offre également une occasion de générer des revenus pour la communauté. Le gouvernement continue également de faire des efforts en faveur de l'égalité économique de trois manières différentes. Le premier est l'accès aux terrains commerciaux et ensuite la facilitation sous forme de capital et d'opportunités commerciales ainsi que la formation à la gestion d'affaires. Répondant à la question si les terres forestières peuvent être vendues par la communauté pour obtenir des capitaux, Madame Siti Nurbaya a déclaré que, conformément à la réglementation en vigueur, les forêts sociales ne devraient pas être vendues et ne devraient pas être données en garantie. Cependant, selon Siti Nurbaya, les terres forestières gérées par la communauté peuvent être coopérées avec la société afin que les résultats puissent être commercialisés et que la communauté puisse être plus productive afin de fournir des avantages. Elle a donné l'exemple d'un agriculteur de Pati Java Central qui avait collaboré avec la société Kacang Garuda puis la communauté forestière à Kalimantan Sud qui se coopère avec la société de pneumatique en Kotsuk et Bradstone. Chers amis, c'était Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers amis, bienvenue au programme Le Magazine Culturel. Et cette fois, nous allons vous inviter à visiter l'île de Lihaga, située dans la province de Sulawesi du Nord. La beauté naturelle de la province de Sulawesi du Nord n'est pas seulement regardée à l'exotisme du parc marin de Bunaken, qui est déjà connu à l'étranger, parce que, en vérité, la beauté naturelle de Minahasa peut être regardée à l'île de Lihaga. Cette île magnifique et exotique située au district de Likupang, la préfecture de Minahasa du Nord, dans la province de Sulawesi du Nord. si vous allez à l'île de Lihaga comme destination touristique marin, c'est le bon choix parce que cette île peut satisfaire de tous vos désirs de tourisme maritime. Si vous voulez visiter ce site touristique, votre voyage peut être commencé de l'île de Manado, capitale de la province de Sulawesi du Nord, vers la région de Likupang. Ce voyage a duré environ 60 minutes. De Kupang à l'île de Lihaga, vous prenez le bateau à moteur pendant environ 30 jusqu'à 45 minutes. Après avoir arrivé à l'île de Lihaga, vous serez impressionné par la nature exotique de cette île. Vous pouvez voir l'étendue de sable blanc, les eaux bleues et aussi les arbres. Toute la beauté va vous encourager à commencer diverses activités touristiques. Vos activités touristiques peuvent être commencées par jouer au long d'une étendue de sable blanc, comme jouer le volley de plage, football de plage ou bien s'asseoir en profitant de la mer bleue. Après cela, essayez de profiter également de la beauté sous-marine en plongeant pour voir différents types de poissons colorés, les coraux avec le biote marin. C'est parce que cette île n'est pas habitée. Et puis préparez votre équipement de plongée et aussi vos nourritures et boissons lors d'une visite dans cette région. Si vous êtes fatigué, vous pourrez vous reposer à gazebo ou bien pavillon qui a le toit en feuilles de katuk ou sauropus androgynous. Ces gazebos sont au long de la plage de l'île de Lihaga. Et ensuite, si vous avez faim, vous pouvez manger vos approvisionnements alimentaires ici. Après avoir mangé, vos activités touristiques sur l'île peuvent être continuées jusqu'au soir. Au soir, le panorama de cette île est plus beau parce que vous pouvez regarder le soleil de couche. Et n'oubliez pas de prendre la photo ces moments. Chers amis, c'était Magazine Culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur, informant sur Borobudur Marathon 2018. La cure à pied n'est pas seulement bénéfique pour la santé du corps. De plus, ce sport athlétique peut également favoriser la croissance du secteur économique grâce au tourisme sportif. Actuellement, environ 75% de la croissance du secteur du tourisme artificiel provient du tourisme sportif. L'impact de l'économie du tourisme sportif est assez grand pour les destinations touristiques. Constatant cet impact positif, le gouvernement provincial de Java Central et le journal Compass ont organisé le marathon de Borobudur 2018. C'est une course à pied dont le thème principal était Raising Harmony, ou en français, augmenter l'harmonie. Le marathon de Borobudur 2018 a eu lieu le 18 novembre 2018. La compétition, qui entrait dans sa sixième année, avait pour thème Raising Harmony, dans le but de maintenir et de promouvoir un esprit de solidarité entre les coureurs et les habitants du centre de Jaffa. L'équilibre doit toujours être maintenu pour qu'ils puissent toujours avancer. En élevant les valeurs historiques et culturelles de Borobudur en tant que patrimoine culturel mondial, on espère que ce marathon de Borobudur 2018 deviendra un événement de course à pied ayant un impact significatif sur l'environnement autour de Jaffa Central. La course aura lieu dans les catégories 10 km, semi-marathon et full marathon. Situé dans la cour du temple Borobudur à Magelang, les participants au marathon seront invités à profiter de l'un des charmes de Jaffa Central. Il est souhaitable que plusieurs 10 000 participants indonésiens et étrangers se réunissent pour animer ce grand événement. L'inscription du marathon de Borobudur a été ouverte par plusieurs étapes à partir de janvier 2018. L'enregistrement de la première étape a pour thème le point de départ, où les participants s'inscrivent eux-mêmes sur le lien disponible, puis l'organisateur choisit 1000 personnes chanceuses pour obtenir la place de participant au début. Les participants sélectionnés reçoivent un VIP pass lorsqu'ils prennent des packs de cours, une réduction de 20% sur le prix réel et un abonnement gratuit aux médias des sponsors pendant 3 mois. Il y a également des inscriptions dans les communautés de gestion de toutes les villes d'Indonésie, des inscriptions dynamiques en duo et des inscriptions auprès d'agents de voyage qui inclut déjà l'hébergement pendant leur séjour à Magelang. Alors que pour une inscription régulière, il est ouvert le 8 juin 2018. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir à tous, rencontrons-nous de nouveau dans le magazine musical qui présente les chansons pop et traditionnelles de l'Indonésie. Pour l'édition d'aujourd'hui, nous vous présentons les chansons nostalgiques chantées par Iis Sugiarti. Pour ouvrir notre rencontre, voici sa chanson intitulée « Di sini aku menanti » ou « Ici j'attends ». Bonne écoute.
Thank you.
Serviteur, c'était la chanson d'Isugiarti intitulée Ici je t'en, lancée en 1985. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voi.co.id et nous vous invitons également à rejoindre la Voix d'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voiindonesia. La chanson principale de cet album qui intitule le même, à savoir Ici j'attends, cette chanson raconte deux personnes qui s'aiment mais à cause de la longue distance, car l'amour a du mal à atteindre ses objectifs, seule une lettre à ce moment peut guérir le désir des deux personnes qui s'aiment. Cette chanson est assez bien reçue par la communauté. Bon, serviteur, voici la chanson suivante d'Isugiarti intitulée Souviens-toi de moi. Bonne écoute.
Selalu sendiri dan digigit rasa rindu.
Chers lecteurs, c'était la chanson de Issou Guerté intitulée Souviens-toi de moi. Cette chanson est une chanson principale de son deuxième album dont le titre est similaire, Souviens-toi de moi, lancé en 1986. Le thème de cette chanson est l'amour. La chanteuse née en 1965 est active dans le travail. Son troisième album intitulé Joget India sorti en 1987. Un an plus tard, en 1998, elle a sorti l'album intitulé « Rentrer chez moi » et « Vers fissuré ». Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici la dernière chanson intitulée « Rentrer chez moi », chantée par Issou Guerté. Bonne écoute et à demain!
Thank you.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4 et 5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook, The Voice of Indonesia, et Twitter, @VOIINDONESIA, ou bien Instagram, voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.